Histoire de voix, une série des médias francophones publics, présentée par Anne Dorval et signée Francis Legault.
On parle très souvent des belles voix, des voix lisses et parfaites, des voix au timbre universel, mais il serait dommage d'oublier les voix atypiques, les voix qui étonnent, qui intriguent, qui dérangent, les voix qui ne font pas toujours l'unanimité, ces voix qui marquent le cœur des uns et le tympan des autres. La diva aux quatre octaves, la reine de l'exotica, le rossignol des Andes. Les journalistes n'ont jamais été en panne d'inspiration pour qualifier la chanteuse Imma Sumac. Née au Pérou dans les années 20, Imma Sumac prétendait être la descendante du dernier empereur inca. Grâce à sa voix des plus extravagantes, c'est à partir des années 50 qu'elle connaît une carrière internationale. Une carrière qui s'échelonne sur près de 60 ans. Le metteur en scène, Serge Denoncourt.
Imma Sumac, elle est unique dans l'histoire des chanteuses, on va dire. C'est une Péruvienne qui... Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la légende? Ses parents ne voulaient pas qu'elle soit chanteuse. Elle allait dans la forêt, elle imitait les oiseaux. Elle chantait pour les oiseaux, ce qui fait qu'elle s'est mise à faire des sons d'oiseaux qui se sont transformés en magnifiques notes, qui se sont transformés en grandes, grandes chanteuses. Imma Sumac, c'est un cas de feu d'artifice. C'est un cas de cirque. C'est un cas de personne à part elle est capable de faire ça au monde. Par contre, si tu t'assois et que t'écoutes Imma Sumac, t'es quand même troublé par, bien sûr, les presque cinq octaves, bien sûr, les notes hautes, mais par la maîtrise. Et cette maîtrise-là est tellement exceptionnelle que ça devient touchant. Ça devient émouvant. Parce que là, on n'a pas, nous, d'emprise. On ne comprend pas comment elle le fait. On ne le comprend pas. Donc, on est fasciné.
L'actrice Arielle Dombal.
Imma Sumac, je l'ai connue par mon père. C'est lui qui avait une passion pour Imma Sumac. Et il l'a trouvée très belle et une personne tout à fait étrange dans le paysage des chanteuses. Parce qu'elle avait donc cette très, très, très longue voix. Et donc, Imma Sumac est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la musique tribale, basique du pays. Et elle a voulu faire une sorte de mélange de sons et avec sa voix. Et ce mélange de plusieurs cultures... Elle était la seule à en faire des mambos incroyables, quoi.
Vous vous rappelez un peu de comment vous l'avez ressenti lorsque jeune, vous entendez cette voix-là qui est tout à fait particulière?
Oui, elle me faisait un peu peur, moi, parce que je me disais, ah bon, une femme peut chanter comme ça, tout bo, 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 comme ça, comme une sorte d'animal de la jungle, et puis tout à coup... des trucs comme ça, alors le même corps, alors c'est tout à fait bizarre.
Hey!
La voix singulière et l'excentricité de Diane Dufresne sont en parfaite harmonie. Depuis les années 70, la célèbre diva québécoise ne cesse d'être insoumise et rebelle. Le metteur en scène, René-Richard Cyr.
Ben, tu sais, souvent, on dit que la voix dévoile beaucoup, c'est-à-dire tu vois des fragilités, tu vois des forces, tu vois... Et de sa part, elle, il y a comme un désir de comment je faisais ça, de rejoindre, bien sûr, mais de fesser de tout bord, tout côté. C'est-à-dire, moi, le spectacle avec sur lequel j'avais collaboré avec elle, elle passait de la Traviata à faire des cris d'animaux dans la jungle, à se promener dans des chansons rock, gutturales, qui demandaient énormément de pouvoir, tout ça entraînant des costumes d'une lourdeur incroyable. Après ça, qui chantait « Parlez-moi d'amour » avec douceur. Donc, je pense que ça dévoile plus son désir de... Ben, pas son... Je pense pas qu'elle ait le désir de déranger, qu'elle ait le désir d'étonner. C'est juste, c'est elle... On dirait que sa voix, c'est un professeur de liberté. C'est-à-dire que c'est comme si, moi, j'ose y aller. Moi, je me garoche. Faut pas oublier que Diane, au départ, c'était une chanteuse. Il y avait la chanteuse straight, c'est-à-dire formée à Paris, chanteuse de ballades, amoureuse, douce, tranquille. Puis elle raconte qu'elle a vu Janis Joplin, puis que ça a, comme tout à coup, dit « Hey, ça peut aller ailleurs. Ma voix peut aller ailleurs. » Mais tu dis, cette voix-là, c'est comme un orchestre à elle toute seule.
Maman, si tu me vois, tu seras fier de ta fille. Quand je sors le soir sur Sunset Boulevard, tous les gens qui passent me prennent pour une star. Les vrais stars sont rares à Hollywood. Je me suis acheté une robe décolletée en cœur comme Marlène Monroe.
Un souvenir d'enfance pour le chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin.
Je me rappelle très bien de regarder à la télévision ses apparitions. Je me rappelle de mes parents admirant à la maison au début des années 80 Diane Dufresne, mais aussi, comme tout le monde, on était un peu dérangés par ce personnage qu'on se demandait, mais où est-ce qu'elle nous amène? Qu'est-ce qu'elle fait avec ses prouesses, justement, non seulement vocales, mais aussi scéniques? Et je trouve que, quand je repense à Diane Dufresne dans les années 80, entre autres, je me dis, il y a beaucoup de... Sans en nommer, là, je trouve qu'il y a beaucoup de chanteuses et chanteurs très populaires aujourd'hui au niveau mondial. Là, je parle pas juste du Québec, mais vraiment au niveau international, qui se donnent un personnage vraiment très... rebelles, personnages très hors des codes, qui se veulent vraiment révolutionnaires. Puis là, on écoute la musique, puis c'est vraiment ben gentil. Puis quand je pense à Diane, je me dis, ben là, on voit une adéquation parfaite entre le contenant et le contenu, entre le visuel et l'auditif, entre une façon de chanter qui est extrêmement émotive, mais qui aussi a pas peur d'aller presque vers le cri parfois. Et cette étendue-là, ça me frappait beaucoup quand j'étais petit. C'est comme ça que sa voix est entrée dans ma vie. Pour moi, c'était comme un animal avec, là, je dis ça, là, avec tout l'amour que je porte aux animaux. Je veux dire, pour moi, là, c'est le plus beau des compliments, au fond.
Diane Dufresne et le compositeur François Cousineau sont les invités de Lise Payette à l'émission Lise Libre.
Vous avez étudié le chant?
Oui.
Ah oui. Il y a des gens qui ne croiront pas parce qu'ils s'imaginent que c'est facile de faire ce que vous faites.
C'est pas facile parce que je dois dire, et je me permets de dire, que j'essaie de développer une technique de chanteuse interprète qui ne s'est jamais faite, c'est-à-dire chanter de plus en plus de notes, mais non pas de faire le change de la voix, que la voix change, rendu plus haut. J'essaie de le faire, mais vraiment, j'essaie vraiment de développer une technique. Je ne sais pas jusqu'où je vais me rendre, mais c'est très sérieux ce que je
pense. Ce qui me fait mourir de rire, c'est quand j'entends des gens dire « elle crie ». Elle crie pas.
Ben au départ, c'était sûrement très criard. Mais là, j'essaie de plus en plus. Je suis sûre que dans 3 ans, je vais vraiment arriver.
3 ans?
Ah oui, c'est très long. Parce que j'ai hâte de retourner voir mon professeur Jean Lumière à Paris pour lui montrer ce que j'ai trouvé.
Oui.
Quand on chante 3 octaves, on est presque une chanteuse d'opéra.
Elle est capable de passer à l'octave supérieure sans tomber dans la voix de tête. Ce que toutes les chanteuses que je connais, que j'ai rencontrées, font automatiquement. Parce que passer le do ou le do dièse, ils tombent à voix de tête. Diane fait maintenant des fa, des sol, des si en haut, une octave plus haut, à pleine voix.
C'est vrai. Alors, j'étais la petite fille bien sage. Je prenais des cours avec Simone Quenet, qui était une femme qui m'a montré l'interprétation. Ensuite, à 19 ans, je suis partie à Paris. J'ai chanté dans les bois de la rive gauche. J'étais la chanteuse de la rive gauche, très sérieuse. Je suis revenue à Montréal.
En robe noire.
En robe noire, très straight. Là, mais je mettais mes cheveux rouges.
Dans un monde sans couleur, qu'est-ce que vous deviendriez?
Sans couleur?
Oui.
Transparente, je sais pas. C'est pas de la couleur. Ça n'a pas de bon sens. Le monde manque de fantaisie.
En mars 2000, Diane Dufresne et Serge Lama se retrouvent sur le plateau de l'émission Christiane Charette en direct.
Diane est peut-être la plus grande chanteuse de sa génération, du mondial, je dirais presque. Parce qu'elle aurait vraiment pu faire une carrière partout, aux États-Unis. Elle a inventé sans arrêt. Elle faisait invention sur invention. Elle a une voix exceptionnelle, une technique exceptionnelle. Elle a la folie, comme on en a rarement vu. Et moi, je pense que c'est une des plus grandes chanteuses du monde, j'en suis sûr.
Bon, ben, Diane, ça vous rend mal à l'aise qu'on vous demande comme ça d'entendre quelqu'un qui parle de vous?
Ben, oui, un petit peu. Surtout venant de Serge Lama. Les Français ont toujours un penchant pour moi, quand même. Ça fait des années que je suis là, je veux dire, il y a une fidélité. Bon, c'est vrai que j'ai fait des choses, c'est vrai que j'ai fait bouger, mais les Français n'ont jamais eu peur de moi ici. Il y a toujours eu cette peur. Bon, pas du public, mais ils ont toujours trouvé de l'humour ou de l'invention. Ou, bon, j'étais huée la première fois à l'Olympia quand je montais là, mais je disais, il se passait quoi? Je veux dire, au moins...
Mais vous avez été huée la première fois que vous êtes montée à l'Olympia?
Oui.
Oui? Ça vous a pas échaudé ou ça vous a pas...
Ben, J'étais en première partie de Julien Clerc et je veux dire, bon, il y avait des gens qui me huaient, d'autres qui, je veux dire, étaient pour. C'est comme, même M. Cocatrice, il disait, bon, il se passe de quoi? Mais même des fois, je me disais, oh mon Dieu, il n'a même pas été hué. C'est fou qu'il se passe de quoi? Au moins, moi, je préfère que les gens partent des fois en disant, ah, ben, elle amuse en merde, qu'il se passe quelque chose.
Mais c'est la plus grande provocatrice aussi. Et c'est aussi une des dernières stars. Elle a un mystère autour d'elle qu'elle n'entretient pas. Elle est comme ça.
Mais si, on me dit que je suis une diva. Alors, c'est peut-être ce qui remplace ta.
Ouais, oui, c'est ça, oui.
Et quoi, diva, est-ce que vous le percevez d'une manière péjorative?
Ben, au début, c'était ça. J'ai toujours eu des exigences. Je fais pas tout ce qu'on veut. Je fais pas vraiment le tapis. Puis quand j'ai rien à dire, je ferme ma gueule, mais je reste chez nous.
Moi, je vais faire des choses, des gestes dont on parlait tout à l'heure, mais c'est incroyable,
mais
les
gens.
Que de ça, je veux dire.
Quand vous parlez de ces gestes-là, c'est quand elle avait chanté les seins nus?
Non,
c'est ça. Non, elle se caressait, quoi. Voilà, c'est ça.
Avant,
elle se caressait sur scène, mais d'une façon très artistique. Puis très artistique, t'étais beau. Mais néanmoins, personne n'avait jamais eu vers ça. Et par une femme, en plus, c'était extraordinaire.
Mais c'était avant Madonna, ça, bien avant Madonna.
Diane.
Oui, ça, oui.
Bien sûr.
Mais qu'est-ce qui vous avait amené à faire ça?
J'ai toujours fait des sujets tabous. Je pense que c'est mon rôle, moi, sur scène, je veux dire, d'amener ça, d'exorciser. Comme là, je chante, je vieillis, ça scandalise autant que quand je chantais striptease.
Oui.
On chante pas, je vieillis, on se tait. Bon, c'est un peu le même principe.
Oui.
Ça, c'est vrai.
Est-ce que vous avez l'impression de vous rendre vulnérable quand vous chantez ça?
Ben, il faut être vulnérable quand on chante.
Ne tu vends pas la beauté du monde. Ne tu vends pas la beauté du monde. Ne tu vends pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour. Ne tu vends pas la beauté du monde. Ne tu vends pas le chant des oiseaux. Ne tu vends pas le bleu.
La cantatrice du peuple, la perle du Nil, l'astre de l'Orient. 50 ans après sa mort, la magie de la voix d'Oum Kalsoum ne cesse d'opérer. Une voix grave aux accents du Levant, une voix hors du temps. L'auteur Éric Chacour.
En Égypte, on l'appelle la quatrième pyramide. Ça fait référence évidemment à son côté totalement incontournable et central dans la culture égyptienne. Mais ça fait aussi, je pense, référence à cette espèce de stabilité, de solidité, de force qu'on retrouve dans sa voix. Une de ses particularités, c'est qu'elle rassemblait tous les Égyptiens. En fait, des fellahines qui sont dans la rue jusqu'aux bourgeois dans leur salon, tout le monde l'aimait. Elle a symbolisé l'Égypte et elle a symbolisé de façon beaucoup plus large l'ensemble du monde arabe. Naguib Mahfouz, qui est notre seul prix Nobel de langue arabe, disait « les Arabes ne s'entendent sur rien, sauf sur Oum Kalsoum ». Et il n'avait pas complètement tort. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui disent « on a pleuré trois fois dans nos vies, à la mort de Nasser, à la mort d'Oum Kalsoum et à la mort de notre mère ». Et c'est une manière assez jolie de dire aussi la place qu'elle avait dans cette fierté-là, de la part du peuple égyptien puis du monde arabe de façon générale.
Et toi, elle est entrée comment dans ta vie, cette voix-là?
Oh, c'est une voix qui est rentrée à travers ma mère. C'est ma mère qui écoutait beaucoup Oum Kalsoum. Moi, je ne supportais pas. C'était vraiment le genre de musique que je détestais entendre. Aujourd'hui, je l'écoute avec nostalgie parce que ça me rappelle ma mère, mais j'ai le souvenir d'être tombé sur des documents d'archives où on voyait son passage à l'Olympia avec des personnalités de l'époque comme Marie Laforêt qui expliquait qu'ils allaient voir une des chanteuses qu'ils admiraient le plus au monde. Je suis pas sûr aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de chanteurs en langue arabe qui soient célébrés comme ça dans le monde entier, y compris dans les pays non arabophones. Mais à cette époque-là, il y a eu cet incroyable astre qui était Omé Kalsoum et qui a représenté quelque chose.
En 1979, soit 12 ans après le triomphe d'Oum Kalsoum à l'Olympia, Bruno Coquatrix se souvient.
C'est dans cette villa, située dans un quartier chic du Caire, le quartier Zamalek, qu'Oum Kalsoum reçoit Bruno Coquatrix. Elle fixe elle-même le montant du cachet, 20 millions de centimes pour deux récitals. 20 millions plus les frais de séjour de ses 30 musiciens logés dans un palace parisien. Jamais le directeur de l'Olympia n'avait versé une telle somme à une artiste, et pourtant, il accepte.
Ça faisait une somme considérable à tel point que j'avais été obligé de mettre les places, au prix des places à l'Olympia, à 30 000 anciens francs la place.
Pas très accessible au public arabe.
C'était absolument inaccessible, à mon avis. Or, je dois dire que je me suis trompé entièrement d'un bout à l'autre. D'abord, jusque trois jours avant son arrivée, la location ne marchait absolument pas. Et heureusement, elle m'avait promis de venir quelques jours avant les deux galas. Et quand elle est arrivée au Bourget, j'avais décidé, avec beaucoup de mal, la télévision française à m'envoyer un caméraman pour filmer son arrivée. Et le lendemain ou le soir même, quand c'est passé sur les écrans, alors les Arabes de Paris ont vu que vraiment elle était là, car ils ne croyaient pas qu'elle viendrait un jour à Paris, qu'elle viendrait chanter à Paris. Et alors, dès qu'ils ont vu que c'était vrai, qu'elle était vraiment là, alors là, ça a été la ruée. Et ça a été la ruée en même temps que de la ruée des musulmans de Paris, mais ça a été en même temps la ruée des musulmans d'un peu partout en Europe. Il y a eu des charters qui sont arrivés amenant des gens d'Angleterre, amenant des gens d'Allemagne, amenant des... Et tous ces gens étant souvent de petites gens.
Des petites gens, mais des émirs également, je crois.
Et alors, il y avait au milieu de tout cela tous les émirs du Golfe Persique. Ils étaient arrivés les coudes au corps pour avoir des places, mais ils étaient arrivés tous trop tard dans la plupart des cas. Et il y a eu ce que je n'ai jamais su, c'était un prince, un émir, un cheikh, pas exactement, et qui est arrivé à la caisse et qui a proposé 100 000 francs anciens à la caissière pour lui donner un premier rang. La pauvre, elle lui dit, j'aurais bien voulu, monsieur, mais j'ai pas de premier rang. Il y a longtemps qu'il ne me reste plus un premier rang. Alors, il n'écoute même pas, et il lui donne, il dit 200 000, et finalement, il met 500 000 francs sur leur bord de la caisse, en lui disant, donnez-moi un premier rang. Il dit, mais monsieur, je n'ai pas de premier rang, je ne peux rien faire. Et à ce moment-là, il a tiré son revolver. Est-ce qu'il aurait tiré, je n'en sais rien, parce que c'était ça simplement pour lui faire peur. Et puis, je lui ai donné une chaise entre deux strapontins gratuitement.
C'est une forme de chanson qui est très particulière parce que c'est très, très éloigné des formes assez traditionnelles de chansons occidentales avec des couplets, des refrains, etc. C'est vraiment ce qu'on appelle des mélopées, c'est un peu des plaintes. C'est quelque chose d'un peu particulier, je crois qu'il faut se laisser guider par ça. Je crois qu'il faut accepter de rentrer dans quelque chose qui est très différent de ce qu'on entend. Et peut-être au départ, l'écouter en musique de fond, c'est une bonne manière de rentrer dedans. Parce qu'en fait, une chanson de Omé Kalsoum, ce sont parfois des airs qui nous restent en tête, et il y en a qui sont vraiment iconiques dans le monde arabe, mais c'est aussi une ambiance. C'est peut-être avant tout une ambiance.
À nouveau, Bruno Coquatrix.
Elle me dit, à quelle heure commencez-vous le soir? Je dis, bah, 9h, ça vous va? Elle me dit, 9h, c'est très bonne heure. Je lui dis, bon, bah, vers quelle heure finirez-vous? Elle me dit, oh, bah, je ne sais pas, je vais chanter deux chansons ou trois. Alors, un peu inquiet tout de même, parce que je me dis, deux chansons, ça fait 6 minutes pour nous, deux chansons. Alors, 3, ça fait 9 minutes. Je me disais, ça me paraît un peu juste. Et alors, je lui dis, mais vous ne croyez pas que ce soit trop peu? Je lui dis, écoutez, je chanterai le nombre de chansons qu'il faudra, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai découvert le soir la vérité, c'est que chaque chanson durait 1h30. Au bout d'une heure et demie, elle faisait 20 minutes d'entracte, et puis elle chantait la seconde chanson, qui durait à nouveau 1h30, puis elle faisait 20 minutes d'entracte, et puis une troisième chanson. Elle a chanté 4 comme cela, ce qui a dû faire 6 heures de tour de chant à peu près, dans l'année. Ah, Habibi. Ah, Habibi.
La voix des contre-ténors fascine, d'abord par leur rareté, mais aussi parce que, comme le cristal, elles n'ont droit à aucune imperfection. C'est en toute humilité que le contre-ténor Philippe Jaroussky parle de sa voix.
Ben, disons que moi, au début, effectivement, j'étais très grisé par la virtuosité, par exemple, puisque j'avais une voix légère, jeune, flexible, et que je m'intéressais beaucoup au répertoire des castrats. Donc, on m'appelait la mitraillette, je me rappelle, au conservatoire, parce que je vocalisais très vite. Et puis, petit à petit, effectivement, je me suis rendu compte que je chantais plus des notes qu'autre chose, et il y a une grande remise en question. Et je dirais que aussi, je l'ai dit des fois par provocation, nous, les chanteurs d'opéra, on peut avoir assez facilement une sorte de complexe de supériorité, je dirais, parce que effectivement, on s'entraîne beaucoup pour chanter sans micro, ce qui est quand même une différence fondamentale. Et du coup, effectivement, on est un petit peu des super sportifs de la voix, et on peut, je dirais, penser qu'on maîtrise mieux le chant que d'autres types de chanteurs. Et c'est vrai que vers l'âge de 30 ans, il y a eu un peu une remise en question. J'ai commencé à écouter beaucoup d'autres chanteurs, notamment, je dirais, les grandes divas de jazz, les Nina Simone, les Sarah Vaughan, les Ella Fitzgerald et beaucoup d'autres. Et puis aussi certains chanteurs pop, certains grands noms de la chanson française. Et je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement, parfois, je peux le dire aussi beaucoup avec provocation et recul, que certains de ces chanteurs chantent parfois beaucoup plus juste et plus en rythme que beaucoup de chanteurs d'opéra. Et sont capables d'émouvoir avec une plus grande forme de simplicité, je dirais. Et moi, ce qui a été peut-être difficile au départ, c'est justement, pour moi, c'était plus facile de chanter des notes que de chanter des émotions ou un texte. C'est une des grandes clés de l'art du chant, c'est bien entendu travailler le souffle, l'intonation, l'ambitus, la projection vocale, mais aussi rester connecté à ses émotions et être capable de les transmettre au public. C'est vrai que j'ai remarqué depuis 25 ans que je chante, je dis souvent « la voix n'est pas en forme » ou « la voix va bien aujourd'hui », mais je dis rarement « ma voix ». Et c'est comme une forme de distanciation que j'ai créée entre cet instrument, qui est effectivement mon métier. Il faut cette distanciation. En tout cas, pour moi, elle est nécessaire parce que sinon, ça devient trop intime et je dirais presque ce que vous proposez au public et devient presque obscène. Et c'est ça qui fait la beauté de l'interprétation et de l'art en général, c'est que c'est une interprétation, mais ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas le sentiment tel que je le vivrais dans la vie. C'est quelque chose qui a été enrobé, qui a été représenté, imaginé, mais... Je dirais que voilà, ma voix de contre-ténor, c'est la voix de Philippe Jaroussky, c'est-à-dire le chanteur qui a fait beaucoup de musique baroque. Ma voix parlée, c'est la voix de Philippe. Vous voyez, c'est un peu cette peut-être différenciation que je ferais. Eurydice, Eurydice, oh dear.
Depuis l'âge d'or des castrats du XVIIIe siècle, le nom Farinelli fait rêver. Farinelli, le chanteur des rois, vu par Philippe Jaroussky.
Farinelli, je dirais que c'est le castrat, évidemment, le plus connu. Alors, je dirais que déjà, c'est le James Dean des castrats, puisqu'il doit aussi cette aura et cette légende du fait qu'il s'est arrêté très tôt de chanter sur scène pour chanter auprès du roi d'Espagne. Et du coup, on ne l'entendait plus sur les scènes d'Europe. Donc, finalement, il n'a pas eu, comme d'autres grands castrats, de fin de carrière ou de moments où, effectivement, la voix est moins belle qu'avant. Donc, il a préservé cette espèce de mythe. Et puis, il a eu une grande différence entre Farinelli et la plupart des autres castrats, c'est que Farinelli était un milieu très aisé, d'aristocrate. Et on sait bien que la plupart des castrats venaient de familles pauvres, notamment autour de la région de Naples. Donc, dès qu'un enfant avait des aptitudes pour chanter, s'il était d'une famille pauvre, le castrait, parce que c'était peut-être un retour sur investissement, je dirais, dans 20 ans. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, la plupart des grands castrats de l'époque brillent aussi pour leur caractère très trempé. Certains étaient des bad boys, certains se battaient en duel à l'épée. C'est pas vraiment l'image qu'on a des castrats, mais effectivement, Farinelli, c'est alors une technique absolument époustouflante. C'était quelqu'un qui avait une capacité pulmonaire hors du commun et puis qui était très réputé, notamment pour passer du registre très très grave, parce que c'est là aussi on a une image du castrat qui chante très aigu, mais Farinelli pouvait chanter aussi très grave en contralto et utiliser vraiment ce que j'appelle ces deux voix, une voix de contralto et une voix de soprano léger. Et il était capable de faire, je dirais, des sauts dans ces deux registres assez vertigineux. Mais c'est vrai que c'était quelqu'un de très aimé et qui jurait un peu avec le côté très capricieux de ses collègues. Et il a su maintenir comme ça cette légende en arrêtant de chanter très jeune et ne réservant sa voix qu'au roi d'Espagne, auquel il chantait les quatre mêmes airs tous les soirs pour soigner sa dépression. Mais c'est vrai que moi, en tant que contre-ténor, j'ai profité de ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours, en tant que contre-ténor, s'imaginer que ma voix n'est pas celle d'un castrat. Elle a vraiment des capacités très différentes. Et c'est vrai que malgré tout, on sent que ça fascine le public, qu'ils ont envie d'entendre ce répertoire, alors soit chanté par nous, soit chanté par des femmes, mais que c'est un répertoire qui fascine vraiment le public. Et effectivement, moi, quand j'étais jeune, j'ai dû peut-être pas pratiquer autant qu'ils le faisaient, mais devoir développer des capacités. Mais c'est vrai que, notamment quand je chante un air qui s'appelle Alto Giove de Porpora, qui commence par une grande note tenue, les gens me disent souvent « comment tu fais pour tenir cette note aussi longtemps ?» Et je leur dis « imaginez, Farinelli la tenait 3-4 fois plus longtemps. » Donc ça devait faire littéralement suffoquer le public de ne pas entendre le chanteur respirer. Ça, c'était vraiment la qualité principale.
le pouvoir de la voix, le docteur Jean Habitbol trace un parallèle entre la voix de Farinelli et celle de Céline Dion.
Chez Farinelli, le contrat, c'est qu'il avait des aigus et sa voix grave, donc le relief dont je parle tout le temps, le paradoxe, c'est qu'elle était là d'une façon relativement presque absente, mais elle existait. Chez Céline, cette voix aiguë qu'elle a, a également cette voix grave. Et ce relief extrêmement rare, où vous avez les deux dans la force. Et elle a su, par sa technique, là on parle de la technique, gérer cela. Par le fait aussi que c'est une athlète de la voix. Farinelli, c'est un athlète de la voix. Donc, ce côté athlète de la voix fait qu'elle sait à quel moment elle peut y aller, elle ne peut pas y aller. Elle sait à quel moment le grave va passer. Elle le fait très bien, d'ailleurs. Elle dit, là, ça y est, je peux monter, je peux y aller. Elle y va. Et on attend, on attend, on attend. Waouh !
Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis fort de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis fort de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jeté sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie de lui. Il était 4 heures du matin, j'étais seule, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il m'a dit, viens prendre un café. On s'est raconté nos vies. On a ri, on a pleuré. Ziggy, il s'appelle Ziggy. C'est mon seul ami. Dans sa tête, il n'y a que de la musique. Il vend des disques dans une boutique. On dirait qu'il vit dans une autre galaxie. Tous les soirs, il m'emmène danser dans des endroits très très gais. Essayer de l'oublier. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis fort de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas ma faute. Même si je sais
Les aventures de Tintin par Hergé, adapté par Catel Guillou,
avec la troupe des comédiens français.
Les bijoux de la Castafiore.
Troisième épisode.
Dans le cœur des 7 à 77 ans, la voix atypique qui a le plus souvent nourri les imaginaires est sans contredit celle de Bianca Castafiore. Un extrait de la fiction radiophonique de France Culture.
Ok, on y va. Et silence maintenant, les enfants. Lancez le son.
Ça tourne.
Moteur. Partez.
Casta, plan 1, prise 1.
Chers téléspectateurs, nous avons ce soir le grand privilège d'être reçus par la célèbre cantatrice Bianca Castafiore de la Scala de Milan, surnommée à juste titre le Rossignol milanais.
N'est-ce pas dans un opéra de Gounod que vous avez connu vos succès les plus éclatants?
Oui, c'est dans le fameux Air des bijoux de Faust que j'ai obtenu des véritables triomphes. On a dit que j'y étais divine.
Eh bien, chère madame, je suis certain que nos téléspectateurs seraient ravis de vous entendre interpréter pour eux cette œuvre.
Volontiers.
Alerte aux abris, elle va chanter.
Allô, j'écoute.
Depuis l'enfance, le réalisateur Patrice Lecomte a une affection toute particulière pour la sémillante Castafiore.
La Castafiore, c'est une grosse dame qui avait l'impression qu'elle chantait juste, alors qu'elle chantait comme une casserole. Cela dit, puisqu'il s'agit de bande dessinée, on sait d'après les dessins de Hergé qu'elle chante très fort, et les gens qui sont à côté d'elle sont décoiffés, c'est affreux, quoi. Tellement elle chante fort. Mais on l'a quand même jamais entendu chanter, par définition, puisque une bande dessinée est muette. Alors, est-ce qu'elle chantait bien, est-ce qu'elle chantait mal? Je pense, vu la grimace des auditeurs, je pense qu'elle chantait vraiment comme une casserole, comme plusieurs casseroles d'ailleurs. Mais ce qui m'a toujours plu chez la Castafiore, ce qui me la rend très attachante, quoi, c'est qu'elle ne doute de rien. Elle chante. En principe, il paraît qu'elle vient de la Scala de Milan. Moi, je veux bien, mais enfin, je sais pas si elle a réussi à chanter à la Scala de Milan. C'est pas sûr. Enfin, personne ne l'a jamais vue. Il n'y a pas de photo. Peut-être qu'elle vient de la Scala de Milan, en effet, mais que c'est pour ça qu'on l'envoie à droite et à gauche pour qu'elle chante pas du tout à la Scala et qu'elle aille faire ses affaires ailleurs, qu'elle aille décoiffer ailleurs. Et je vous dirais toujours que elle chante tellement fort que Tintin se rassure en voyant que les vitres de la voiture sont des vitres sécurites, donc que malgré la voix, elle ne va pas péter les vitres. Et moi, ça me fait marrer.
Qui a inspiré Hergé pour la Castafiore?
Alors, il y avait dans les années 30, aux États-Unis, une femme qui était incroyable, qui s'appelait Florence Foster Jenkins. Et elle était incroyable parce qu'elle était vachement riche. Et comme elle était riche, elle pouvait se permettre des tas de choses. Et comme elle adorait l'opéra, elle payait, comme il faut, des orchestres, des studios d'enregistrement, des salles de concert aussi, pour chanter. Et elle chantait extrêmement mal, mais vraiment très mal. Mais personne n'osait lui dire « Écoutez, Florence, c'est pas terrible, votre prestation, vous feriez mieux d'abandonner le chant et de vous mettre à faire du tricot ou que sais-je ». Moi, c'est ça qui me plaît, c'est chez la Castafiore et chez cette milliardaire chanteuse casserole. Ce qui me plaît, c'est que, et je reviens toujours à ça, pardon, mais c'est le fait de continuer contre vents et marées sans douter de soi-même.
Il est toujours étonnant de voir comment une même voix peut parfois plaire à un très grand nombre et provoquer chez d'autres une véritable révulsion. Le docteur Jean Habitbol.
Votre oreille, la mienne, celle de vos auditeurs, est unique. Elle n'est pas copiable. Et il y a des fréquences qu'elle ne supporte pas. C'est génétique. Elle ne les supporte pas. Vous avez des gens qui, quand ils écoutent des bruits de casserole dans une cuisine, « Oula, oula, je peux pas. » Rappelez-vous, quand on était gosse, la craie sur un tableau, « Ouf, il y en a qui, dans la classe, ouf !» Et d'autres, c'est pas leur problème, quoi. Parce qu'ils n'ont pas sensible à cette fréquence. Ils ne sont pas sensibles. D'autres sont hypersensibles, c'est douloureux. Ça devient une écoute douloureuse. À ce moment-là, non, j'en veux pas. Mais ça, c'est justement non plus une question de culture, c'est une question de tolérance de l'oreille. Mais lorsqu'on a une voix universelle, on est dans, si je puis dire, le registre de la tolérance universelle. C'est ça qui est à mettre en exergue. Parce qu'il y a une espèce de marge dans laquelle, eh bien, quelle que soit la musique, l'oreille va l'entendre. La marge universelle, on pourrait la décrire de façon très très simple. C'est entre 500 et 2000 Hertz. C'est la fréquence de la voix conversationnelle, et c'est la fréquence de la voix chantée, qui peut aller beaucoup plus haut, bien sûr, mais qui va d'une façon très progressive, dans laquelle on garde des harmonies dans les voix aiguës, et non pas un son pur. Un son pur, ça fait très mal. Vous écoutez un diapason, c'est un son pur. Les harmoniques ont pratiquement disparu, et ils ne sont pas habillés
par les autres fréquences. Quand vous parlez, vous avez certes 2000 Hertz de fréquence, vous avez 1200 Hertz, mais c'est accompagné par toute une harmonie derrière, qu'on appelle les harmoniques fondamentaux, le F1, F2, F3, F4, c'est-à-dire ces différentes harmoniques de la voix qui effectivement accompagnent votre voix. Votre voix est accompagnée à partir d'un fondamental qui est le mien, qui est le vôtre, qu'on reconnaît tout de suite. Mais on le reconnaît parce qu'il y a une harmonie derrière. Lorsque cette voix devient extrêmement percutante, pour prendre un terme très fort, c'est que l'harmonique devient presque nue. Et lorsqu'elle est nue, elle peut faire mal pour des gens qui ne supportent pas cela. Effectivement, c'est aiguiser la voix dans son maximum de percussion et presque comme une arme qui peut faire mal.
À la fin des années 70, la scène musicale underground voit apparaître une étonnante étoile filante, le chanteur Klaus Nomi. You don't know me. Sa voix captive. L'artiste multidisciplinaire, Michel Lemieux.
Il révèle quelque chose de vraiment intéressant sur sa direction musicale et surtout sur sa voix complètement unique. Il dit, je le paraphrase, « Il y avait toujours eu cette collision entre l'opéra et la pop. Petit, j'ai piqué des sous à ma mère pour m'acheter King Creole d'Elvis Presley. Ça l'a mis hors d'elle. Elle déteste le rock'n'roll. Elle me l'a confisqué et m'a donné un Maria Callas à la place. Depuis, j'ai toujours été écartelé entre Elvis Presley et Maria Callas. » Ça définit totalement Klaus Nomi. Très fort sur sa voix. Très tôt dans sa vie, il s'est rendu compte qu'en Allemagne, il ne pourrait pas arriver à vivre ce qu'il voulait être, c'est-à-dire un mélange d'opéra et de rockstar. Alors, il est parti très tôt à New York et il s'est épanoui dans le monde underground de New York. On est à Preston Noir, donc il y a une espèce d'effervescence de la culture gay avec plein de bars. Les gens étaient très excentriques. Il a une tessiture de voix fantastique, passant du très grave au très aigu, mais avec beaucoup d'âme. Et c'est une voix incarnée. Hein, les contre-ténors, parfois, c'est un peu éthéré. Lui, c'est un contre-ténor qui a du corps. On sent que c'est un talent pur. Mais pour se démarquer, il s'est dit « Je vais m'inspirer du costume de David Bowie. » Et je me crée mon propre costume, inspiré un peu des formes géométriques des costumes du dadaïsme. Il s'est inventé un costume qui est la pochette de son premier album, une image iconique du début des années 80, où il est habillé comme un homme, donc avec un habit, un nœud papillon, des épaules ultra larges, une taille très fine, tout ça dans un espèce de plastique, complètement extraterrestre, ce qui, dans le fond, crée un personnage queer avant l'heure. C'est une caricature de la masculinité avec un ersatz de voix féminine. Alors, ça crée quelque chose qui influence encore aujourd'hui. Je pense que tous les queers et beaucoup de travestis ont un peu de Klaus Nomi en eux. You don't know me. I'm not just one of your little toys. You don't own me. Don't say I can't play with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. Please, when I go out with you, don't put
Michel Lemieux.
En 1983, le 6 août, à l'âge de 39 ans, Klaus Nomi meurt. Un des premiers artistes connus à mourir d'une maladie totalement mystérieuse, le sida. Même à la fin de sa vie, ses amis très proches ne sont pas allés le voir à l'hôpital. Il est mort seul. Tout le monde avait peur de cette maladie contagieuse. On n'avait aucune idée de comment on pouvait attraper cette maladie. Alors, ça a été un peu un choc. Il est mort au sommet de sa courte carrière qui, aujourd'hui, nous parle encore. Et je pense que, autant que Elvis Presley ou que Maria Callas, Klaus Nomi va rester légendaire.
C'était Histoire de voix, une série des médias francophones publics. À la narration, Anne Dorval. À la technique, Patrick Knoop. Avec une musique originale de Joseph Marchand. À la recherche, Marie-Christine Blais et Jean-Philippe Roux. Aux archives de Radio-Canada, Sophie-Hélène Gibson et Suzy Hood. Cette émission est signée Francis Legault.